Chers lecteurs, bonsoir. Rachel Benzing, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre nouveau roman, Le silence des pères, publié aux éditions du Seuil. Alors, quelques petites explications sur qui vous êtes, bien que beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà. Vous êtes enseignant, vous êtes chercheur, auteur de nombreux essais, dont l'un en dialogue avec Delphine Horvilleur, des mille et une façons d'être juif ou musulman. Vous avez fait aussi une pièce qui s'intitule Lettre à Nour, qui a été mise en scène dans plusieurs pays avec succès. Et puis, vous avez écrit beaucoup de livres, dont Ainsi parlait ma mère, Dans les yeux du ciel et Voyage au bout de l'enfance, qu'on avait présenté il y a 2 ans, ici sur Radio Judaïka. Et vous revenez aujourd'hui avec Les silences des pères, un roman tout simplement bouleversant. Alors, avant de commencer notre interview, je fais un mini pitch sur l'histoire. Et bien voilà, il s'agit de Amine qui, après 20 ans d'absence, apprend par téléphone le décès de son père, avec qui il n'était pas fâché, mais que les non-dits et les silences ont fini par éloigner. Il revient pour l'enterrement, mais ne se sent guère concerné. Il n'ose pas dire à ses sœurs que leur deuil n'est pas le sien, que pour pleurer quelqu'un, il faut l'avoir aimé, que pour regretter un mort, on doit éprouver plus que des regrets, que la mort n'annule pas tout. Donc de retour à Trappes pour les obsèques, ce fils va trouver une enveloppe remplie de cassettes cachées dans un renforcement de la salle de bain, et chaque cassette est étiquetée d'une année et d'un lieu. Et donc la première cassette va débuter avec l'année 1965 dans le nord de la France, où le père raconte son histoire, un jeune travailleur immigré. Il s'enregistre, il parle à son père qui lui est resté au bled avec le reste de sa famille. Et donc tout le monde à ce moment-là n'a pas le téléphone, ne sait pas lire non plus. Et donc on s'enregistre et on envoie à la famille, comme on le ferait, une lettre. Et donc ce jeune ouvrier va raconter sa vie, il va raconter les conditions de travail à la mine, à la cimenterie, dans le bâtiment. Il va raconter les douleurs et les peines de l'exil, les désillusions, surtout ses amours, son mariage et ses enfants. Et c'est le récit d'un fils qui, au travers de ses cassettes, va découvrir après sa mort ce père qui était différent, qui était véritablement un autre homme. Et à travers les enregistrements, mais aussi la rencontre de ses anciens amis, de ceux qui l'ont connu, qui ont partagé les mêmes galères, les mêmes luttes, va se dessiner alors le portrait d'un ami sûr, d'un père qui est un véritable combattant contre l'injustice, un mélomane, un frère. Amine comprend à travers les blessures de son père les raisons de son mutisme, et il comprend que derrière l'homme taiseux, qui ne montrait jamais ses sentiments, eh bien il découvre un homme tout à fait différent, généreux, honnête, fidèle, un homme qui était amoureux, un père qui ne pensait qu'au bonheur de ses enfants, fier de ses fils, prêt à les passer avant lui-même. Ce père qu'il a toujours connu silencieux et taiseux, il a l'impression de ne pas le reconnaître. Alors il se pose bien entendu des questions. Quel jeune homme était-il? Que s'est-il passé pour qu'il s'enferme dans ses silences? Alors le fils va partir à la recherche de cet homme qu'il ne connaît finalement pas, pour découvrir petit à petit, je dirais, les difficultés, les obstacles que son père a rencontrés, les drames et les douleurs qui l'ont touché. Et il va y voir un homme loin d'être aussi insensible et taciturne qu'il avait toujours cru. Taiseux, mais pourtant un homme qui était très, très aimant malgré tout ça. Alors voilà, on débute notre interview. David, je te laisse.
Alors, on débute par une phrase que vous avez écrite dans le livre, qui est une très très belle phrase, qui dit « C'est à la fois mon père et un étranger qui est mort ». Alors, on s'est posé la question parce qu'il arrive parfois que les pères ne sachent pas s'exprimer, les fils non plus. Alors bon, voilà, la question c'est comment renouer les fils d'une relation qu'on n'a pas vécue, surtout et sans doute afin d'éviter que le silence vienne perturber les ou des générations suivantes.
Absolument, en tout cas cette phrase est dans le roman, dans la mesure où Amine s'était éloigné de son père, de la ville de Trappes où il habitait pendant 22 ans. Pendant 22 ans, il y a un silence entre... je dirais, entre ce fils et son père, le père qui n'a pas su trouver les mots pour parler à son fils, et ce fils qui part en colère, je dirais, de la vie de son père. Il pense que c'est simplement un immigré taiseux qui a courbé les chines, qui s'est complètement effacé devant la société française. Et donc, ce silence-là, pendant 22 ans, au moment où il y a la mort, ce silence fait place à l'absence. Et donc, il y a une communication qui a été impossible. Il y a des récits qui n'ont pas été racontés. Il y a quelque chose qui ne s'est pas noué autour de cette idée de la filiation. Et ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'être un père et qu'est-ce que c'est qu'être un fils? Et la question, en tout cas, plutôt l'affirmation que j'ai, c'est que globalement, les enfants ne connaissent et ne s'intéressent absolument pas à la vie de leurs parents et qu'ils s'y intéressent globalement une fois qu'ils sont morts. Donc il y a eu des questions qui n'ont pas été posées et la question c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces questions qui sont restées sans réponse et comment raconter la vie aussi de nos parents parce que toute vie mérite récit.
Alors c'est vrai qu'il entreprend donc cette quête. Est-ce que pour Amine c'est pas un moyen finalement de faire la paix avec son père et avec ce passé qui a quand même été assez rude, quoi.
Oui, en tout cas, lorsqu'il revient après 22 ans, effectivement, il dit à ses sœurs, il n'ose pas leur dire qu'il pensait qu'il était déjà mort. Et pour pleurer quelqu'un, il faut l'avoir aimé. Donc on voit bien, je dirais, la déchirure et on a l'impression que ce sont deux hommes qui n'ont absolument rien à se dire et qui sont étrangers. Et la première scène commence parce que c'est le seul enfant unique dans la tradition musulmane, donc il doit laver le corps de son père. Donc magnifique. Le premier contact qu'il fait, c'est d'abord le toucher. Il doit le laver pour accompagner son dernier voyage. Et lors de ce lavement, il y a l'imam qui lui demande à un moment de toucher l'épaule de son père. Et il est surpris, donc il s'exécute machinalement, il ne ressent absolument rien. Il lui dit « réessaye une seconde fois » et là, d'un seul coup, il est submergé par de la tendresse et à la fin, il demande à l'imam si ce qu'il vient de faire, le fait de caresser l'épaule de son père, si ça fait partie du rituel, lui dit non, mais ça vous aura fait certainement du bien à vous et à votre père. Donc, il voit son père qui est complètement nu, il ne l'avait jamais vu comme cela. Il voit à travers le corps des traces d'une histoire, d'une vie qu'il ne connaît pas. Et petit à petit, vont, je dirais, ressurgir un certain nombre de souvenirs du passé qu'il avait complètement refoulé. Et c'est à travers les cassettes audio qu'il va trouver dans l'appartement, parce qu'à un moment, il faut vider l'appartement. Et toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, leurs parents vous disent que lorsqu'il faut vider un appartement, c'est la chose la plus difficile, parce que c'est toute une partie de votre enfance, de votre vie qui disparaît. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Les vêtements des parents? Est-ce qu'on garde les montres ou on ne garde pas les montres? Comment on se répartit quand on est des enfants? Je dirais des souvenirs d'une vie dont il ne restera pratiquement plus rien. Simplement la question de la mémoire et la question de la transmission. Comment nous allons raconter ces histoires-là? Et ça pose la question aussi de comment on se construit en tant qu'individu lorsqu'il y a une part de votre vie qui est liée à votre père qui n'a pas été racontée ou que simplement les enfants n'ont pas osé aller chercher. Parce qu'il y a de la souffrance, je dirais, de part et d'autre. Vous avez beaucoup de pères qui sont dans cette souffrance, qui sont dans cette solitude et qui entrent en silence parce que finalement, comme le dit Walter Benjamin, le silence est la meilleure réponse face au chaos du monde. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir aborder cette question du silence comme une manière d'être au monde face aux difficultés, face aux drames. Et de l'autre côté, des enfants qui n'osent pas aller poser un certain nombre de questions parce qu'ils savent ou ils ressentent qu'en allant poser ces questions. Il y a peut-être des douleurs qui vont ressurgir, il y a des drames qui vont peut-être apparaître, et ils ne sauront pas quoi faire de tout cela, et parce que souvent, il y a de la colère. Souvent, lorsqu'on découvre comment ses parents ont été à un moment humiliés ou pas du tout respectés, ou un certain nombre de drames, on a besoin, de, quelque part, de trouver un bouc émissaire. Et vous avez beaucoup de jeunes qui vivent des souffrances par procuration. Parce que, alors que leurs parents ont déjà réglé cette problématique quelque part, parce que ce sont des parents qui ont accepté que la souffrance fait partie de l'existence. Or, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, les individus se présentent à partir de leur souffrance. Et c'est globalement, c'est 10 mois, ils s'identifient à leur souffrance et ils ne sont plus que cette souffrance. C'est plutôt, c'est l'idée de 10 mois, quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es.
Mais pour rebondir sur ce que vous dites, donc, voilà, nous, on se permet de dire qu'on vous retrouve avec le silence des pères. C'est comme le dernier volet d'un cycle autour de la famille, après Ainsi parlait ma mère et Voyage au bout de l'enfance. Là, c'est avec la voix du fils. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que vous voulez dessiner à travers ces romans qui sont extrêmement différents, mais qui pourtant semblent comme 3 variations sur la parole et le silence. Et une question en plus, est-ce que le silence est une arme ?
En tout cas, merci de poser cette question. Est-ce que le silence est une arme ? C'est en écrivant Les silences des pères que j'ai mieux compris qu'est-ce que je foutais dans le monde romanesque. Parce que globalement, moi, je suis plutôt universitaire, chercheur. J'écris des articles scientifiques, des essais. Et depuis quelque temps, j'ai décidé, d'aller sur le terrain de ce que j'appelle cette rhétorique du sensible au service du sens. Parce que c'est ça, le langage de la littérature. Et je me suis rendu compte que, fondamentalement, ce qui me travaille, ce sont les silences autour des histoires. Mais aussi les silences dans une société. Vous savez, en ayant travaillé sur pas mal d'ouvrages de Paul Ricoeur, de soi-même comme un autre, aux questions herméneutiques qui concernent l'interprétation du texte. Mais il a un texte qui, moi, je trouve très brillant sur notre rapport à la mémoire et l'histoire. Et ça s'appelle « Mémoire, histoire et oubli ». Et il a écrit au début des années 2000. Et le texte commence par en disant, c'est Paul Ricoeur qui s'exprime, il dit « Je suis stupéfait par le trop-plein de spectacles de mémoire d'un côté et le trop d'oubli de l'autre. » C'est-à-dire comment une société organise le mémorable, ce qu'elle veut commémorer, ce dont elle veut se souvenir, et comment elle organise aussi la question de l'oubli. Et je crois que c'est toujours par rapport à une société, en tout cas, que j'ai réagi. C'est-à-dire que globalement, que ce soit Voyage au bout de l'enfance, c'était ces gamins qui se retrouvaient dans les camps de réfugiés dont les parents ont décidé de les emmener à Daesh alors qu'ils ont 7, 8 ans, voire 5 ans parfois, et dont la France ne voulait absolument pas au moment où ils étaient dans les réfugiés au nord du Kurdistan, parce qu'elle les considérait comme des menaces. Et donc on a essayé de les invisibiliser. Et comment on les invisibilise ? En les rendant inaudibles. Dans Ainsi parlait ma mère, c'est exactement ça. C'est toute une génération de mères immigrées qui se sont sacrifiées pour leurs enfants, dont on n'entend pas du tout l'histoire. Les silences des pères, c'est exactement ça. Ce sont tous ces pères qui ont contribué à la société française, mais pas que. C'est tout ce monde ouvrier qu'on entend de moins en moins, dont on n'a pas suffisamment raconté l'histoire, alors que ça fait partie de notre histoire. Et c'est comme si, finalement, le fait de mettre en récit ces silences, c'est pour les rendre beaucoup plus visibles, au sens d'une reconnaissance, au sens d'une justice. Parce que je pense que ces récits de nos pères, de nos parents, de tous ces hommes et de toutes ces femmes doivent pouvoir exister dans l'espace public et ils doivent être reconnus en tant que tels.
Mais c'est tout à fait juste. Alors, votre précédent roman parlait aussi de l'arrachement à la terre natale. On suppose que c'est un thème qui vous est personnellement très cher.
Ouais. Ben oui, parce que la question de l'exil, c'est aussi la question du mouvement. Ouais. On est sur Radio Judaïka, donc la grande figure du mouvement de l'exil, c'est Abraham, qu'on retrouve aussi dans le Coran. Donc il y a la question du mouvement. Et en même temps, j'ai l'impression que tous les exilés, ce sont des cadavres en sursis. et qui sont comme ça perdus dans le couloir de l'histoire et qui finiront par disparaître petit à petit pour devenir ces fantômes et ces fantômes dont on n'a pas suffisamment raconté cette histoire et qui viennent vous hanter, tous les jours et de dire nos existences, c'est grâce à nos existences que vous avez existé. Et donc, pour moi, il s'agissait effectivement de simplement se dire que il s'agit de rendre compte de ces vies minuscules, de ces vies qui ne trouvent plus la possibilité à un moment de pouvoir exister. C'est-à-dire que l'arrachement du petit Fabien qui vivait à Sarcelles, qui devait réciter ses poèmes à Monsieur Tanier et à ses camarades, le jour où il devait réciter ses poèmes, ses parents décident de l'emmener à Raqqa en Syrie, rejoindre Daesh. Et pour lui, c'est une trahison. Et d'un seul coup, il ne trouve plus, il essaie de trouver les moyens pour survivre dans le chaos, dans la question de la violence et dans la question du mal. C'est quelles sont les ressources dont il va disposer. Cet homme, en tout cas le père du narrateur, il se retrouve de la même manière. Venant du Maroc, il arrive, il se retrouve
sans repère
et d'un seul coup, il n'est plus considéré que comme une force de travail. Et c'est cela qui la violence, elle est là. Parce que quand vous êtes dans votre environnement, dans votre village, dans votre famille, vous avez une existence et vous faites partie d'un écosystème. Et d'un seul coup, cet écosystème qui n'existe plus, le sol sur lequel vous étiez, finit par vaciller et on vous ne considère plus qu'à partir de votre force de travail, vous n'êtes plus réduit qu'à cela. Et donc, il y a une espèce de violence et ensuite, cet homme qui commence dans les mines, il est en dessous, 1000 mètres sous terre et donc, du coup, il découvre tout un monde et puis il découvre aussi un phénomène de solidarité avec des Polonais. Et je voulais rendre compte, en tout cas, je voulais rendre hommage à cette conscience ouvrière et surtout à ces hommes qui se sont d'abord sacrifiés pour leurs enfants. C'est-à-dire que le seul rêve, c'est ça qu'il s'agit de comprendre, le seul rêve, c'était la réussite de leurs enfants. Et ensuite, quand on voit ce que sont devenus certains enfants, parfois de manière assez difficile, il y a beaucoup d'hommes qui se disent « Est-ce que j'ai bien fait d'émigrer ?» Et donc, du coup, le projet de l'exil lui-même devient difficile pour ces personnes-là parce que, comme ils le disent, moi, j'avais rencontré des gens que, dans les foyers Sonacotra et ailleurs qui me disaient « Quand je suis ici, j'ai envie d'être là-bas. Quand je suis là-bas, j'ai envie d'être ici. Je ne suis bien que dans l'avion. » Et donc on voit bien qu'il y a un moment, l'ancrage ne s'est pas fait. Et le seul ancrage qui est disponible, c'est peut-être de voir leurs enfants atteindre un horizon qu'eux n'avaient pas atteint, mais en tout cas qu'ils pouvaient espérer pour leurs enfants.
Alors, comment cette histoire vous est-elle venue en tête ? Est-ce qu'il y a un élément ou des éléments autobiographiques ? Est-ce que c'est votre histoire qui est racontée ou celle de la génération qui vous précède, qui se sacrifie pour la prochaine, comme vous l'avez dit ?
J'ai toujours été interpellé par cette question du silence dans une société, et encore plus mon père. Moi, j'ai un père qui est taiseux et silencieux, qui partait à 3h, 4h de la nuit pour aller travailler, qui revenait à 19h du chantier et qui, en rentrant, ma mère lui prenait son sac et il se dirigeait tout de suite vers la salle de bain. Il faisait ses ablutions, il faisait ses prières, il venait, il restait une heure pour dîner et il repartait pour dormir parce qu'il devait se renseigner. Donc mon père, c'est vraiment un fantôme. Voyez donc, et moi, j'ai vécu avec cela et puis quand il était là, il ne parlait pas. Et ensuite, j'ai constaté que mes camarades, qui étaient aussi dans la même condition ouvrière et qui avaient des Espagnols, des Portugais dans le quartier où j'habitais à Trappes, ont le même type de père. Et donc, c'est pour ça que pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était d'abord la question de l'exil qui amenait ce chaos et ce besoin de silence, ce retranchement au niveau de l'être. Et ensuite, dans la société française, quand j'allais en province, dans le milieu rural, je découvrais aussi ce même type de silence. Et chez les ouvriers aussi, mais pas que, aussi dans des grandes familles. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui m'a beaucoup interpellé, parce que la question du silence, c'est une manière d'être au monde, mais c'est aussi une manière dont une société veut taire une partie de son histoire. Et cette question de silence, quand j'étais un peu plus jeune, dans les années 80, j'avais eu l'occasion, dans le cadre, du lycée, d'aller dans un voyage à Auschwitz. Et il y avait des déportés d'Auschwitz avec nous, à l'aller et au retour. Et il y a un moment, il y avait une déportée qui était, je dirais, à ma droite. Et je lui ai dit, je peux vous poser une question ? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, face à cette déshumanisation, on résiste ? Voilà, face à toute cette violence, à cette question du mal, comment on résiste ? Et elle m'a dit, je me suis rappelé d'une parole de ma mère. Et donc, c'est très beau. Et je n'ai pas voulu lui demander qu'est-ce que c'est cette parole. Et cette parole-là, c'était elle, pour elle, un espace de vie. Et elle m'a dit, vous savez, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu raconter mon histoire. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas raconté votre histoire ? J'avais 17 ans à l'époque. Et elle m'a dit, tout simplement parce que je voulais qu'avec moi meurent les souffrances. J'ai retrouvé le même type de phrase, pratiquement, lorsque j'ai été interrogé des Algériens, des gens qui avaient fait la mine, et ça. Il y en a un qui m'a dit, quand je lui ai posé la même question, il m'a dit, je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. Donc il y a une espèce de silence comme une espèce de protection. On doit tourner la page. Le problème, c'est que ces silences-là, dans un certain nombre de familles, font des carnages. Et il y a de la violence, parce que les enfants le ressentent. Voilà. Et donc, c'est cette question de la parole, d'un récit qui doit être au service de la vie, mais pas simplement au niveau de l'espace intime familial, mais c'est aussi comment une société française, belge, reconnaît aussi vos parents. Et que le premier travail, il est là, mais en même temps, parce que je vois toute une génération d'immigrés en train de mourir. Et je me dis, mais qu'en est-il de leur vie ? Qu'en est-il de cette mémoire ? Est-ce qu'on a fait suffisamment ce travail pour récupérer globalement cette parole ? Et on en a besoin, je dirais, dans la construction des individus. Et en même temps, la question du silence m'interpelle dans une société où il y a de plus en plus de bruit. Est-ce que finalement, le silence n'est peut-être pas, je dirais, la dernière liberté qui reste aux hommes ?
C'est une question de juste milieu, je suppose, aussi. Enfin, ouais. Alors, moi, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que votre ouvrage se distingue par une grande accessibilité au niveau de la langue. Dès lors, on se pose la question du rôle intrinsèque du roman, à savoir s'il doit s'efforcer d'être à la portée de tous. Et dans ce cas-là, la langue l'aide, y compris de ceux qui ne sont pas familiers avec la littérature romanesque.
Absolument. En tout cas, j'ai une écriture qui est faussement simpliste. Oui. Et que cette simplicité-là et le travail, c'est d'abord un travail long, douloureux, où j'essaie vraiment de travailler au couteau et à l'os les mots. Et donc, j'ai besoin de la concision. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'étaler, il faut que je trouve le mot juste, de telle sorte que la concision puisse laisser aussi la place au silence et à l'imagination du lecteur. Dans ce livre-là, qui commence par le concert de Keith Jarrett, je dirais un concert qui n'aurait jamais dû être enregistré, il s'avère qu'il a été enregistré, et il s'avère qu'il s'est devenu l'un des albums de jazz le plus vendu dans l'histoire, et que la musique de Keith Jarrett, c'est non seulement de l'improvisation, donc rien n'est écrit, et ensuite il doit jouer le 24 janvier 1975 sur un piano qui est un Bossendorfer, qui sonne faux, sur les aigus, donc il y a des notes qui sont pas dites, voyez. Donc et la particularité de Keith Jarrett, c'est la place du silence. La place du silence est parce que le silence lui-même fait partie du morceau. Voyez, même quand on écoute un morceau de Keith Jarrett, la fin, en tout cas le silence fait partie du morceau. Donc j'avais besoin de parler du silence sans être bavard. Donc j'avais besoin de concision et j'avais surtout aussi besoin de créer des ellipses. Des ellipses temporelles où j'ai pas besoin de tout raconter, des ellipses spatiales qui vont être importantes, on passe d'un endroit à un autre, de telle sorte que le lecteur puisse lui-même se poser un certain nombre de questionnements et y répondre. J'avais besoin que son imagination soit la plus libre pour que lui-même puisse se réapproprier ce que je suis en train de dire. Et en fait, ça, c'est énormément, énormément de travail.
Et c'est la réussite d'un roman.
Oui, tout à fait. On découvre, avec vous comme auteur et avec le roman, ce roman fort, tout un pan de l'histoire de l'immigration, les recrues marocaines des mines du Nord. Bon, c'est des histoires que je ne connaissais pas. Hein. L'aventure syndicale et musicale des années 70 également, la main-d'œuvre du Sud, les maraîchers, les harkis. Est-ce qu'à travers ce roman, vous mettez en lumière une contre-histoire qui est plus laborieuse ou en tout cas plus masquée ?
Vous savez, vous avez cité les mines. Il y a quelques années, moi-même, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je découvre cette belle histoire de chez l'autrice Samira El-Hayachi, dans Le ventre des hommes, parce que ça se passe uniquement dans les mines, et je découvre cela. Mais là où j'ai voulu aller, moi, c'est d'abord dans une géographie du silence. Je voulais que ça soit un voyage hexagonal, parce que ce fils, lorsqu'il découvre ses cassettes, lorsqu'il prend ses cassettes et qu'il les met sur le siège du passager en écoutant comme si son père était là en train de lui raconter sa propre histoire, il va visiter des lieux qui n'existent plus. Les mines dans le nord, à Lens, n'existent plus. Les unes de Besançon, les unes de Lippe, des montres, qui a été un élément très important dans la cité française dans les années 70, avec une grève qui a duré quand même 2 à 3 ans et où les ouvriers se sont autogérés. C'est une partie de l'histoire de France. Et en même temps, ces silences-là, en Camargue, où le narrateur Amine se rend pour aller à la rencontre d'un homme qui a connu son propre père, là, il découvre tout un pan méconnu de l'histoire de France, qui est d'abord la manière dont on a parqué sur des hectares des milliers de harkis. Et dont aujourd'hui, il ne reste plus de traces, c'est devenu un champ. Et même lorsque, à l'intérieur, de ce camp, on a enterré des enfants, qu'il n'y a plus de plaques ni de sépultures. Donc la question, c'est comment les morts peuvent, reposer en paix lorsque les vivants sont tourmentés par cette mort. Et donc, c'est l'oubli, c'est aussi une manière d'effacer l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette citation de Paul Auster qui dit « Le silence oblitère tout ». Oblitère tout au sens de, dans le mot oblitérer, il y a l'idée d'effacer, mais il y a aussi l'idée d'oublier. Et je pense qu'on doit pouvoir rappeler ces histoires-là, parce que nous avons besoin absolument de ces histoires pour pouvoir se construire. Et, mais en même temps, cette mémoire du passé, elle ne relève pas que du passé, elle a aussi des conséquences sur le présent. Et c'est aussi des mémoires qui peuvent ouvrir vers l'avenir. Quand vous voyez le courage de ces hommes et de ces femmes, ce n'est pas uniquement le passé, c'est que nous sommes le produit de ces histoires-là. Et la question, c'est comment nous relevons à notre tour quand nous tombons, comment ne pas faire de nos souffrances une identité, puis surtout comment être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui vous ont précédé et qui vous ont non seulement offert la vie, qui vous ont offert une partie de leur vie par l'idée de sacrifice, et de se dire est-ce que vous en êtes à la hauteur ou pas du tout. Et c'est ça la vraie question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'est devenu ce courage? Qu'est-ce qu'est devenu globalement ce travail, cette contribution dans nos sociétés? Où est-ce qu'elle existe? Où est-ce qu'on en parle? Dans quelle mesure on peut s'identifier? Est-ce qu'il y a des rues qui racontent cette histoire? Est-ce qu'il y a suffisamment de films qui racontent cette histoire? Est-ce qu'à l'école, on étudie des auteurs, qui viennent aussi de ces contrées et qui nous racontent cette histoire? Parce que globalement, je pense fondamentalement que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Si je suis à l'école, à un moment, on me raconte l'histoire de mon père ou l'histoire des Polonais ou l'histoire des Italiens ou l'histoire du juif marocain, juif tunisien ou juif algérien qui sont arrivés en France et qui ont contribué à cette histoire-là. En fait, c'est comme si on voulait oblitérer, en tout cas effacer tout un pan de la construction de cette nation. Et c'est pourquoi je saisis la littérature comme un lieu aussi de justice. C'est-à-dire que je fais de la fiction. Effectivement, la fiction est le chemin le plus court vers le réel. Mais cette fiction, elle doit être au service du sens, elle doit être au service de l'humain. Ce n'est pas simplement des variations imaginatives au sens du style où j'ai envie de raconter pour raconter une histoire. Non, j'ai envie de raconter une histoire parce qu'elle vient dire quelque chose de notre société et du monde.
Alors,
il nous reste une minute pour la dernière question.
Alors, dans tout ce que vous racontez, on s'est posé la question, David et moi, s'il n'y a pas une critique sous-jacente face au poids des traditions, face au respect des ancêtres, aux parents, que l'on ne voit souvent que comme un père ou une mère, mais rarement comme un homme ou une femme avec ses bonheurs et ses peines. La tradition, c'est vrai, apporte le respect, mais ne sanctifie-t-elle pas, d'une certaine façon, le père, les parents face à l'enfant?
Elle finit par enfermer les parents, mais elle finit aussi par fermer les enfants dans une attitude, dans un statut. C'est pour ça que je dis que tant que vos parents sont vivants, faites ce travail, allez vers eux, cassez la distance. Et parce qu'ils ont été jeunes, enfants, amoureux, ils ont plein de choses à vous raconter.
Merci beaucoup, Rachid.
Merci pour cette invitation.
Merci, David.
Merci.
Et on se retrouve dans 2 semaines pour autre chose, un autre livre. À bientôt.